C'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi avec un nouvel épisode de nos émissions au cœur du parc d'Armorique et aujourd'hui de ses paysages.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, autrement dit le magazine L'Émission, une quotidienne qui vous balade dans le Finistère. Là, on va vraiment se balader à travers les paysages, ceux du parc naturel régional d'Armorique. Et il y a de quoi faire. Les paysages, c'est une notion artistique, romantique. C'est un peu flou aussi, mais de plus en plus, c'est étudié par les sciences. Qu'est-ce qui définit un paysage ? Que nous racontent les paysages ? Visuellement, mais aussi dans leur dimension sonore ou olfactive, sensorielle en général. Que nous apportent les paysages ? Est-il important de les préserver ? Le PNRA a mis en place un des premiers observatoires photographiques du paysage en France, et c'était en 1997. On parlera de ça dans notre émission et aussi d'une enquête menée récemment par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Avec nous pour en discuter, il y a Lise Vauvert qui est chargée de mission paysage du PNRA, ça tombe bien. Bonjour Lise.
Bonjour.
Alors Lise, vous avez travaillé notamment, enfin vous travaillez toujours avec une scientifique qui n'a pas pu participer à cette émission. Elle s'appelle Laurence Ledu-Blayot, elle est enseignante chercheuse en géographie à l'Université de Rennes 2. Et elle aurait pu nous expliquer, mais vous allez le faire, sur quoi elle cherche et puis pourquoi est-ce que c'est important de préserver les paysages ?
Oui, alors je vais du coup très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche sur ce sujet-là. Mais effectivement, donc Laurence Ledu-Blayot, donc déjà est membre de notre conseil scientifique
du parc, oui.
Et également des deux autres parcs bretons. Donc voilà, ça permet aussi de faire le lien entre nos territoires, donc c'est assez intéressant. Et effectivement, à l'échelle régionale, elle a travaillé sur la description et toute la méthodologie en fait de définition, de description des paysages bretons. Elle a également travaillé et encadré des thèses sur la question des observatoires photographiques de paysages qu'on va aborder tout à l'heure. Et également, plus récemment, sur la question des paysages sous-marins. Sur lesquels elle encadre un thésard qui travaille justement sur aussi cette caractérisation des paysages pour le coup invisibles sous l'eau.
Et alors à la question pourquoi préserver les paysages, qu'est-ce que vous répondez vous Lise ou les scientifiques concernés ?
Alors pourquoi préserver les paysages ? En fait les paysages vont être le reflet d'une grande diversité à l'échelle de notre territoire, à la fois de facteurs naturels, des différences de composition du sous-sol, de la place de l'eau, des différents types de végétation ou de climat, et également de la manière dont les hommes en fait, se sont adaptés à ces contraintes naturelles. Et donc on a une diversité de paysages qui va être très importante, en particulier sur le territoire du parc, parce qu'on a quand même plus de... On découpe en fait, les paysages quand on les décrit en unités paysagères. Et à l'échelle du Finistère, on en a une vingtaine et on a plus de la moitié qui sont sur le territoire du parc. Donc on a un rôle...
Ça veut dire quoi C'est un peu paysage standard, unité paysagère, non
c'est pas c'est, ça bah, c'est des paysages qui vont avoir un peu les mêmes caractéristiques. Donc si on donne des exemples à l'échelle du parc, on va avoir les îles d'Iroise. On va avoir comme unité aussi la presqu'île de Crozon. Alors à chaque fois, on peut redécouper la presqu'île de Crozon.
Ouais.
Elle est pas
une unité paysagère pour la presqu'île de Crozon.
Voilà, mais on peut la découper en trois. Oui. Encore sous unité derrière, entre la partie ouest des pointes et la partie est, où on va avoir encore des subdivisions. Et,
ou même le centre, parce qu'il y a des marais à l'intérieur. Enfin, bon, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours. Mais...
Ouais. Et c'est vrai que même au niveau de la rade de Brest, on peut aussi, entre la partie rade sud et la partie plutôt du côté de l'Opérette, Plougastel, on va avoir des paysages qui sont encore... différents. Et donc, le parc regroupe une diversité vraiment importante de paysages. C'est aussi pour ça qu'on a ce label de PNR hein, sur le territoire. Mais du coup, dans l'émission, on a cette impense de pouvoir préserver ces caractéristiques paysagères pour éviter de tendre, au niveau local comme au niveau national, à une standardisation et une banalisation des paysages où, en fait, on peut gommer un peu ce qui fait la caractéristique de chacun de ces espaces.
L'emblématie du paysage, comme on dit parfois. Et en plus, c'est sans doute une demande des gens qui vivent ici. On le verra tout à l'heure quand on parlera de l'enquête qui a été faite sur les paysages en Bretagne. Et en, bon, alors il y a aussi des études, mais qui sont encore récentes, sur l'impact sur la santé. Ça existe. Hein, voilà, maintenant, on commence à travailler sur est-ce que un paysage, la conservation du paysage a un impact sur la santé.
Oui, tout à fait. Et sur les questions de bien-être. Donc, effectivement, il y a voilà, des travaux de recherche sur ces questions de bien-être et paysage. Même au niveau européen, au niveau de la Convention européenne du paysage, c'est un sujet qui, voilà, qui commence à être creusé. Sur cette question donc, de bien-être, de santé mentale aussi, la question de l'accessibilité aux espaces de nature, qui est aussi un point important et, et l'objet de nombreuses recherches.
Et on en parlera plus tard quand on aura plus de résultats, peut-être. alors le parc, a de toute façon, le parc d'Armorique a des objectifs en la matière, ce qui justifie votre poste, puisque vous êtes chargée de mission paysage, vous, Lise Vauvert. C'est quoi les objectifs officiels affichés du parc ?
Alors, ces objectifs, bon, comme tous les PNR en France, il y a un objectif de protection et de mise en valeur des paysages. Après, plus particulièrement en Armorique, on avait dans la précédente charte plutôt un objectif vraiment fort sur les questions de paysage, qui était vraiment le fil conducteur du précédent projet, où il y avait quelque part tout à construire. C'était une notion nouvelle en 2009, et l'objectif était vraiment de construire et de diffuser une culture commune du paysage sur le territoire.
C'est là qu'on a défini un peu les unités de paysage, quoi. C'est
tout
à ce moment-là.
D'accord. C'est ça. Mmh. On les a définies, décrites, on a travaillé aussi avec les élus et les acteurs locaux. Là, dans la charte donc, en cours d'élaboration donc pour 2027, l'objectif est clairement affiché de pouvoir stopper la banalisation des paysages et de valoriser les patrimoines naturels et paysagers. Ce qu'on a pu constater, que malgré le fait qu'on puisse faire attention et qu'on soit au chevet de ces paysages, il y a quand même des dynamiques de banalisation qui restent encore à l'œuvre et sur lesquelles il faut rester vigilant pour pouvoir agir et éviter cette fameuse standardisation des paysages.
D'accord. Et donc, ça, c'est défini dans la charte. Et puis, de toute façon, quand on explore un peu le site internet du parc, vous avez déjà mis en place des fiches techniques, très, très concrètes, pour aider les collectivités à préserver leurs paysages, à être vigilantes, c'est ça ?
Tout à fait. Dans les missions, du coup, on a une mission de conseil auprès des collectivités, en premier lieu, sur des projets, par exemple, d'aménagement, et sur comment prendre en compte les caractéristiques paysagères. On va les accompagner aussi sur des actions de médiation paysagère, donc de sortie, d'ateliers sur le terrain, pour collectivement partager en fait nos regards sur le paysage et permettre derrière d'orienter les projets pour prendre en compte ces caractéristiques. Je pense à des exemples sur certaines communes comme Comana, où on a réalisé un atelier de paysage et au final on a pu regarder collectivement qu'est-ce qui faisait la particularité de ce bourg, d'avoir un point de vue sur la crête des Monts d'Arrée. Il n'y a pas tous les bourgs du parc qui ont cette particularité. Et ça permet aussi de montrer l'intérêt de pouvoir préserver ces points de vue qui montrent comment le bourg s'inscrit en fait dans son environnement, et de se dire que s'il y a des constructions à faire, peut-être que ce n'est pas à cet endroit-là, parce qu'on risque de justement perdre ce lien au grand paysage. Mmh. Donc ça peut être un exemple en fait de l'accompagnement qu'on va faire, à la fois avec des productions d'outils techniques qui peuvent servir à tous, mais également d'un accompagnement sur le terrain pour aider à s'approprier aussi ces outils et puis partager collectivement l'analyse.
Très spécifique, quoi. Et vous accompagnez donc plutôt des communes ou carrément des com-com? Ça dépend, en fait.
Ça dépend. ça dépend des projets. C'est un peu en accompagnement à la carte, en fonction des besoins en fait, du territoire. Là, je citais l'exemple de Comana. Après, on travaille aussi beaucoup avec la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, le Nœud Maritime, sur les questions de paysage, notamment par rapport au projet de l'opération Grand Site sur Crozon.
Oui, parce qu'il y a des exigences, j'imagine, liées au Grand Site, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et notamment sur les pointes, avec les sites inscrits et sites classés, des sites qui sont emblématiques à l'échelle du parc, à l'échelle du territoire de la communauté de communes, évidemment, sur lesquels il y a des enjeux forts de maîtrise de la fréquentation.
Alors, ouais, par exemple, si on veut aménager un parking, on ne va pas faire ça n'importe comment.
C'est ça.
Ou peut-être pas faire de parking.
Voilà, c'est ça. Il y a toute la réflexion amont de se dire, s'il y a un parking aménagé, où est-ce que c'est pertinent et le moins impactant ? Et derrière, une fois que l'emplacement est le plus adéquat est défini, c'est de voir comment on va aménager ce parking pour prendre en compte les caractéristiques locales. s'il y a des plantations à faire, quel type de plantation. On ne va pas forcément aller imperméabiliser si on est sur un espace naturel.
De préférence, non. Donc, surtout pas les temps qui courent.
Voilà, faire attention à tout ça. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, bah, du coup, on travaille en complémentarité en fait, avec, au niveau technique, bah, avec les collègues qui travaillent à la communauté de communes sur justement ces approches en croisant paysage et puis question d'aménagement et d'accueil du public. Et donc, on organise, bah, encore une fois, des ateliers paysages, ça peut être des visites sur site.
Et ça vous arrive de travailler avec des particuliers alors, pas forcément les particuliers, mais par exemple, une entreprise qui aurait un projet de construction de bâtiments techniques ou quoi, qui aurait un impact
Alors là, pour le coup, moi directement, non. Là, sur le conseil aux particuliers, on va plutôt travailler, c'est plutôt le CAUE,
conseil en architecture. Marrant parce que je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez des partenaires autres? Oui. Et justement, le conseil d'architecture et d'urbanisme du Finistère, c'est
voilà,
ça?
Voilà, tout à fait, avec qui on a un partenariat de longue date, hein, depuis leur création, et qui propose du coup des permanences de conseil au FOU, à la Maison du Parc, une fois par mois, pour des porteurs de projets. Donc après, ça peut être des habitants, ça peut être aussi des porteurs de projets d'activités économiques, pour les conseiller sur les projets architecturaux. Et puis, à côté de ça, on travaille aussi avec eux. Ça nous est déjà arrivé de travailler ensemble sur une commune pour proposer un conseil conjoint. Lors d'animations aussi ou de formations, on peut intervenir également ensemble. Donc ça, c'est un de nos partenaires privilégiés sur le territoire.
Et si on reprend un peu la définition du paysage, ouais, dans un paysage, il y a du vivant végétal, du bâti. Est-ce qu'il y a aussi de l'animal? Enfin, parce que, par exemple, le fait qu'il y ait un troupeau de moutons là ou un troupeau de vaches là, est-ce que ça compte dans votre travail?
Ouais. Ça, c'est une question qui est assez importante et qui revient aussi. C'est la place des animaux dans le paysage. Quand on a travaillé sur l'enquête, dont on reparlera plus tard, on avait choisi de mettre des questions sur, quels sont les animaux que vous voyez dans le quotidien, ou les végétaux. On s'est dit, on essaye, on va voir. On ne savait pas ce que ça allait donner en termes de réponse. Et au final, on a été vraiment surpris, parce qu'il y a eu énormément de choses qui sont ressorties, donc des noms d'espèces très précis. Mais également toute la question de la présence des animaux dans le paysage, notamment en lien avec l'élevage aussi.
Ah oui, c'est ça.
Et des animaux qui parfois ne sont plus visibles dans le paysage. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est aussi important.
Pris en compte, en tout cas. Oui,
tout à fait.
Donc, je le disais, le parc d'Armorique a été un des premiers parcs, en tout cas, à créer, ou des structures, à créer cet observatoire photographique du paysage en 1997. Alors, en quoi ça consiste, un observatoire photographique?
Alors, un observatoire photographique du paysage, c'est un outil de connaissance et de suivi de l'évolution des paysages, qui va se baser sur la photographie, et plus particulièrement sur la comparaison de photographies dans le temps, de photographies prises d'un même point de vue. Donc, si on en parle au côté très pratico-pratique, on va sur le terrain, on va définir un point de vue en se disant « là, ça peut être intéressant de suivre ce paysage ». On pose l'appareil sur un trépied, une prise de vue, on prend des notes.
C'est pas forcément un photographe professionnel, enfin ça peut être
alors,
vous quoi.
Ça peut être n'importe qui, tout
d'accord.
À fait. Par contre, c'est effectivement, nous au parc, on travaille avec un photographe professionnel parce que initialement, c'est quand même une méthode de travail qui a été définie à l'époque, donc dans les années 90, par l'État et le ministère, donc en charge des questions de l'environnement. Et dans l'approche, il y avait vraiment une dimension culturelle forte. Et à l'époque, il y a beaucoup donc, de photographes professionnels de renom qui ont été missionnés pour travailler avec des territoires sur la définition de ces fameux points de vue.
Ah oui, il faut les choisir, les points de vue. Ouais.
Voilà.
C'est ça. Donc là, il y en a 41, mais est-ce que c'est ceux qui ont été choisis en 97, vraiment? Et vous savez, vous n'y étiez pas sans doute, mais vous savez comment ils ont été choisis, justement, les 41 points de vue du parc?
Alors, sur le choix des 41 points de vue, donc là, aujourd'hui, c'est effectivement toujours les mêmes qu'on suit, donc depuis 97.
Obligé, donc, même si peut-être qu'il y a des trucs...
Après, il y a des adaptations pour en reparler
après,
parce qu'il y a effectivement des choses qui pourraient être intéressantes de compléter. Initialement, le parc, en fait, souhaitait suivre la question de l'évolution du bocage. C'était vraiment l'axe qui était mis en avant. Donc ça a été le premier travail de terrain. En fait, le photographe parcourt le terrain, fait une proposition d'une centaine de points de vue. Et ensuite, collectivement, avec les acteurs du territoire, il y a une sélection. En fait, on s'accorde sur les points de vue qui seront à reconduire. Il y a eu une ouverture après, au-delà des questions de bocage. En fait, ça faisait suite à des travaux de recherche vraiment importants à cette époque sur le sujet. Il y a eu une ouverture sur d'autres sujets comme les questions liées à l'urbanisme, les entrées de bourg, la signalétique, la question des bâtiments agricoles aussi, du camping caravaning sur la presqu'île de Crozon, ou encore le démantèlement de la centrale de Brennilis aussi.
Et puis l'aménagement d'un site touristique comme par exemple la Pointe des Espagnols à Roscanvel, ça c'est et puis l'évolution d'un paysage alors plus naturel, enfin plus sauvage, enfin pas totalement, on le sait puisqu'on a fait des émissions là-dessus, mais comme la Lande qui n'est plus du bocage pour le coup. Oui. Ça c'est pareil, c'est arrivé après l'évolution des Landes.
Les Landes, oui, ça a été donc en fait il y a eu une première campagne donc de photographie dans les années 80 donc 17 et effectivement donc il y a eu également la question des Landes qui a été ajoutée aussi dans le suivi.
Donc ces 41 points de vue ont été suivis chaque année, c'est ça ? Enfin, c'est la méthode, c'est quoi ? Alors c'est toujours au même endroit, trépied, même hauteur, etc. Ok, et quoi d'autre ? Toujours la même saison peut-être ? Enfin...
Alors le dans l'idéal, oui, effectivement, parce que la perception qu'on a surtout dans un paysage agricole ou rural, la présence de la végétation est très importante dans la perception qu'on a. Par contre, ça va dépendre en fait des territoires. Le pas de temps où on reconduit les photos, ça peut être tous les ans, ça peut être tous les deux ans, trois ans, quatre ans. Nous, on est sur entre quatre et cinq ans, voilà, sur les reconductions. Tout dépend en fait de l'objectif qu'on se fixe au départ. Aujourd'hui, on a de nouvelles méthodes qui ont été aussi mises en place avec des fois des observatoires photographiques qui vont suivre même sur un pas de temps d'une heure en fait, l'évolution d'un paysage. Par exemple, c'est intéressant sur des sites très touristiques de suivre par exemple un accès avec un parking et de voir au cours de la journée comment ce paysage va évoluer. Donc en fait, la méthode va dépendre vraiment de l'objectif qu'on se fixe au niveau de la définition du pas de temps. Nous, on est sur 4-5 ans à peu près.
Et alors, qu'est-ce que vous observez ? Bon, c'est peut-être un peu vaste comme question, hein, mais en gros, qu'est-ce qui ressort ?
Alors là, ça va dépendre des points de vue. On a, par exemple, sur les paysages de Landes dont on parlait tout à l'heure, on a une certaine stabilité qui est observée.
C'est rassurant.
Donc, ce qui est voilà, assez intéressant de constater aussi, la stabilité est aussi un élément important à relever. Ensuite, on va avoir certains points de vue où on va avoir des évolutions qui vont être progressives et lentes, donc d'une année sur l'autre. Je pense à des dynamiques comme de l'enfrichement de fonds de vallée.
Les disparitions d'élevage, justement.
Des terres qui ne sont plus, du coup, soit pâturées, soit cultivées. Donc on voit effectivement cet enfrichement se mettre en place au fur et à mesure. Donc quand on regarde d'une photo à l'autre, on ne voit pas une énorme différence. Quand on prend les 97 et 2024, là on voit quand même clairement une transformation du paysage. Et dans d'autres cas, on va avoir des transformations très rapides qui vont faire suite, par exemple, à un projet d'aménagement. On citait la Pointe des Espagnols tout à l'heure. Bah, effectivement, ça n'a rien à voir entre avant le projet, après le projet, on a une transformation nette du paysage. Donc on a ces différentes tendances qui sont observées.
Et les entrées de ville, par exemple, je suis un petit peu concernée parce que j'habite Pont-de-Buis, c'est que c'est un des sites qui est observé. Là, il y a vraiment eu, on sent qu'il y a eu la prise de conscience de ces entrées de ville moches avec plein de panneaux publicitaires. Enfin là, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'est produit, non ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, sur l'exemple en question, on a vraiment une recomposition complète de l'entrée de bourg qui était très routière. C'est vraiment la route qui occupait l'ensemble de l'espace. Les panneaux publicitaires très visibles, les enseignes, etc. Et en fait, il y a eu tout un projet d'aménagement qui a permis de revégétaliser, ou de végétaliser tout court d'ailleurs, cette entrée de bourg avec à la fois donc, des bandes enherbées, une circulation piétonne qui va être vraiment dissociée de la route.
Des arbres
en alignement. Donc c'est aussi intéressant sur ce type de photographie de montrer justement l'évolution aussi au fur et à mesure que les arbres vont pousser. et la transformation engendrée. Et un travail aussi sur la signalétique, les réseaux aériens. Donc on a vraiment une recomposition de cet espace.
Donc cet observatoire photographique du Parc d'Armorique, on peut y accéder en ligne très facilement pour voir ça justement.
Tout à fait. Il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle la Pop Braise, sur laquelle on peut avoir, qui est vraiment une première bretonne, enfin à l'échelle nationale. Maintenant il y en a d'autres aussi qui se mettent en place, mais c'est vraiment c'était aussi dans la continuité des travaux de recherche sur la question des observatoires encadrés par Laurence Le Dublaillot, qui a abouti aussi, entre autres, à la création de cette plateforme qui aujourd'hui est gérée et animée par l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne. Et effectivement, sur cette plateforme, on peut consulter l'ensemble des clichés des observatoires photos bretons.
Parce et là, pour le parc, il y en a 300, c'est ça hein
ouais. Nous, il y a 300 clichés, oui, à peu près. Ouais.
En noir et blanc, d'ailleurs.
Tout à fait. Le photographe avec qui on travaille depuis le début, qui s'appelle Jean-Christophe Ballot, travaille en noir et blanc. Et il y en avait, au moment de la mise en place de ces observatoires, beaucoup de photographes qui travaillaient sur le noir et blanc. Ça a ses avantages et ses inconvénients.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que des avantages.
Voilà. Ça a aussi des limites en termes de lecture et d'interprétation des évolutions. Après, ça permet aussi de faire ressortir plutôt les lignes et de manière assez aussi neutre la lecture de l'espace. Donc on a nos 41 points de vue qui sont sur cette plateforme et avec le réseau régional autour de la Pop Braise, là il y a même tout un travail de développement en cours pour avoir des modules de plus grand public.
Dynamique peut-être quoi.
Et dynamique, parce que là c'est vrai qu'on est sur un outil assez technique et donc là sur début 2026 on devrait avoir ce module plus simple d'utilisation qui devrait voir le jour.
Et alors justement, le grand public, il a été sondé dans toute la Bretagne par l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne en 2024 sur cette question du paysage, donc une enquête régionale. Alors combien de personnes ont été interrogées déjà? Et puis comment est-ce que vous avez participé au parc à cette enquête?
Alors cette enquête a été... donc c'est un travail qui a débuté, je pense, en 2021-2022. Avec un constat qui a été fait avec les différents partenaires au niveau régional d'un manque de données sur la notion de qualité. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un paysage ? Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir aider les décideurs à comprendre aussi le ressenti des citoyens pour pouvoir améliorer le cadre de vie. Donc, que ce soit par des projets d'aménagement ou la question des lieux de convivialité, peu importe. Après, c'est vraiment de voir comment on peut réussir à prendre en compte ce ressenti. Donc c'est la première enquête régionale qui s'est mise en place en France. Et donc l'idée, c'était de voir quels sont les éléments dans le paysage qui sont perçus comme qualitatifs par les habitants. Et derrière, qu'est-ce qu'ils attendent pour améliorer ces paysages quotidiens. Donc il y a eu tout un travail, donc c'est l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne qui a piloté la démarche, et un travail partenarial pour voir quelles questions on
c'est
mettre,
toujours un gros boulot.
Et ça a abouti donc à une enquête en ligne où plus de 2000 personnes ont répondu.
Oui, c'est bien comme échantillon. Donc c'est, est-ce que c'était bien réparti géographiquement? Est-ce qu'il y avait plein de Finistériennes, Finistériens?
Au niveau des départements, oui, au niveau Finistère, c'était assez bien représenté. J'ai plus les chiffres exacts en tête. On craignait qu'il y ait une surreprésentation du littoral.
Bah oui.
Ce qui est quand même ressort, mais on a aussi quand même des données sur le centre-Bretagne, donc ça c'est aussi intéressant. Et derrière, il y a eu tout un travail d'analyse et de redressement de l'échantillon pour avoir un échantillon aussi représentatif de la population bretonne. Mm-hmm. Là, je ne maîtrise pas les statistiques pour préciser, mais on a dans les résultats des choses des éléments qui sont représentatifs.
Et alors, les résultats, on a 2 minutes.
Alors, dans les résultats, les questions portaient autour des paysages du lieu de vie. Donc là, ce qui ressortait beaucoup, c'était le fait que la majorité des répondants se sentent bien dans leur lieu de vie et que c'est souvent associé à une notion de calme. Par contre, on observe quand même vraiment une disparité des résultats par rapport à l'âge des répondants. Donc oui. Ça, c'est aussi intéressant, où on remarque que, au final, les jeunes 16-29 ans sont ceux qui se sentent le moins bien dans leur lieu de vie et ont le moins de contact avec la nature. Donc ça, c'est aussi intéressant derrière en termes de, justement, de réflexion, d'action par rapport aussi à ce public.
Ils trouvent ça mort, quoi, en gros, c'est ça. La campagne, c'est mort. Il y a
après,
pas de boutique.
Là, on est sur les résultats au niveau régional, ouais. Donc pas forcément spécifique au territoire du parc. Là, on est en train de réfléchir avec les autres parcs bretons pour voir comment faire une analyse aussi, nous, de ce qui ressort spécifiquement sur le territoire du parc, parce que ça peut être intéressant aussi de les comparer par rapport aux résultats régionaux, voir s'il y a des particularités sur notre territoire. Et dans les résultats, donc on relève vraiment un attachement fort au bocage. Et dans les actions prioritaires qui ressortent par rapport au paysage autour du lieu de vie, on a vraiment cette question du maintien du bocage et de la volonté de stopper les constructions en ville et en campagne. Donc c'est quand même deux sujets sur lesquels le parc travaille.
Oui, ça tombe bien.
Quotidiennement. Oui. Donc on voit que c'est vraiment des préoccupations qui sont importantes pour les habitants.
Donc la nature, on a pris conscience que c'était important dans la vision du paysage. Oui. Bon, on va devoir s'arrêter là, Lise Vauvert, mais merci beaucoup. Et vous reviendrez, de toute façon, quand on aura justement des résultats peut-être plus spécifiques au parc. Et on pourra réécouter cette émission sur le site internet de Transistor. Et on retrouvera le parc naturel régional d'Armorique le 19 mai. Merci, au revoir.
Au revoir.